Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois, il l'appela et lui dit : Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ? Elle alla en puiser. Il lui dit encore : Apporte-moi aussi un morceau de pain. Elle répondit : Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement, dans une jarre, une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. Élie lui dit alors : N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. Et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils, eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, C'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières, ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Les enfants du primaire sont attendus par le père Vincent pour le temps de l'homélie. Cet évangile nous invite à bien considérer Jésus dans sa divinité. Parce que comment pourrait-il dire aux apôtres que cette femme est veuve, que cette femme a mis tout son argent? Il n'y a que la science divine qui peut avoir cette révélation. Et donc Jésus entre dans une relation avec les apôtres pour leur dire quelque chose qui est du cœur de Dieu. Alors essayons de le découvrir un peu plus. Jésus donc est Dieu fait homme par amour. Et cet amour de Dieu est extrêmement attentif à ce qui se vit dans le cœur humain. Et nous savons comment Dieu a, oui, horreur de l'hypocrisie, qui peut se manifester par l'apparence d'une bonté, l'apparence de la piété, de la prière, l'apparence de la bienveillance pour les autres. Parce que toutes ces apparences peuvent être le contraire. J'utilise les autres pour mon service. Je fais des dons pour moi. Et cette hypocrisie, évidemment, est rejetée par Dieu. Car Dieu rejette tout ce qui est faux, car il est la vérité. Il est la lumière. Et la lumière éclaire les ténèbres de nos cœurs, de nos âmes. C'est pourquoi Jésus peut dire cela aux apôtres. Il ne fait pas un jugement téméraire sur l'apparence des gens, mais il révèle quelque chose à ses apôtres. Voilà ce que Dieu connaît du cœur des hommes et des femmes de tous les temps. Et nous pouvons ne pas oublier ce que Dieu le Père avait demandé, exprimé, révélé aux êtres humains depuis Abraham particulièrement, mais à Adam et Ève, à Noé. Dieu a exprimé que sa parole, ce qu'il révélait, ce qu'il donnait dans le chemin de l'humanité, était la mesure de toute chose. Et d'ailleurs, nous le retrouvons dans le livre du Deutéronome, exprimé de manière synthétique et concise. Lorsque Dieu dit « Écoute, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe, elles seront un bandeau sur ton front, tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de la ville. Écoute la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, elle a non seulement été exprimée dans le passé, mais comme nous le dit la lettre aux Hébreux, en ces temps qui sont les derniers, Dieu s'est révélé parce qu'il s'est fait homme. Et tout ce que Jésus accomplit, tout ce que Jésus dit, est parole de Dieu pour nous éclairer sur le chemin que nous avons à prendre. Et le Seigneur nous dit, eh bien, mets cela dans ton cœur, inscris-le dans tous tes gestes, que ce soit sur ta main, sur ton front, que ce soit la parole de Dieu qui préside à toutes tes activités. Et donc, voilà, la parole de Dieu est là. Et Jésus prend cette pauvre femme en exemple. Il dit à ses disciples, regardez cette femme, la confiance qu'elle fait à Dieu. Elle remet entre les mains de Dieu toute sa vie, puisqu'elle lui donne tout ce qui lui permettait de vivre. Et Jésus en conclut qu'elle est riche dans sa pauvreté. Riche parce qu'elle a tout abandonné à Dieu, elle fait confiance à la providence divine. Alors, nous pouvons tous nous demander, est-ce que nous irions jusque-là dans notre vie humaine? Et puis, en lisant la lettre aux Hébreux, la deuxième lecture, nous pouvons découvrir que c'est Dieu qui s'est fait pauvre. Parce que il n'est pas reconnu comme Dieu dans son humanité. En fait, cette pauvre veuve est l'image de Jésus, de Dieu. Dieu vient toucher le corps humain. Dieu vient toucher la matière de la création. Il met sa vie, sa toute puissance dans la misère de la chair humaine, de notre pauvreté, au point d'être considéré uniquement comme un homme, au point même d'être rejeté par la société dans laquelle il était, parce que son humanité ne correspond pas à ce que nous voudrions, au point que lorsqu'il va être mis à mort sur la croix, il sera rejeté absolument en lui disant « Si tu es Dieu, descends de la croix. » Et on dira « Il n'est pas Dieu. » On refusera de croire que Dieu puisse se faire pauvre à ce point-là. Et pourtant, c'est lorsque ce chemin a été choisi par Dieu qu'il vient enrichir toute notre humanité. Il vient nous enrichir parce que il nous permet de vivre de l'amour qui est en Dieu. Il nous permet de devenir bon comme Dieu est bon. Et cela dure toujours. Ce n'est pas uniquement au moment où Jésus était sur la croix et qu'il est ressuscité que les apôtres ont pu avoir cette joie. Elle est éternelle. C'est pourquoi la première lecture avec la veuve de Sarepta, eh bien, nous dit quelque chose, déjà nous annonce ce qui va se passer. Car cette femme, elle aussi veuve, donc sans moyen de survivre, elle a un fils. Leur pauvreté est encore plus grande. Et Élie, l'homme de Dieu, vient lui demander de la nourriture. Et elle lui dit la vérité. Une fois que j'aurai cuit cette dernière poignée de farine avec cette huile, je vais mourir. Et pourtant, elle fait confiance à l'homme de Dieu. Et l'huile ne va pas se tarir, et la farine ne va pas se tarir, et ils vont pouvoir traverser la famine. Oui, Dieu annonce quelque chose. Car, à notre tour, nous devons faire confiance à Jésus de Nazareth. Dieu fait homme pour recevoir de lui la nourriture qui transforme notre monde affamé. Car nous sommes en situation de famine. Car le manque d'amour est terrible à cause de l'individualisme qui modèle notre société actuelle. Mais est-ce actuel ou depuis tous les temps, depuis le péché originel? N'oublions jamais que la conséquence du péché originel, c'est que les deux premiers frères, Cain et Abel, il y en a un qui va tuer l'autre, par jalousie. Rien n'est nouveau sous le soleil, sinon que la jarre de farine et le vase d'huile, c'est Jésus qui vient nous donner cette nourriture surnaturelle pour nos corps humains qui sont constitués de notre âme, notre intelligence, de notre corps physique. Jésus vient nourrir notre vie humaine et cela ne s'arrêtera jamais. Mais le pape François constate, à travers son encyclique sur le cœur de Jésus, cette réalité qui nous fait souffrir tous. L'anticœur, écrit-il, est une société de plus en plus dominée par le narcissisme et l'autoréférence. Nous arrivons finalement à la perte du désir parce que l'autre disparaît de l'horizon et nous nous enfermons dans notre égoïsme incapable de relations saines. Une société qui vit sans cœur, contre le cœur, contre l'attention aux autres. Et là, le pape François nous rappelle que Dieu a besoin de notre foi pour nourrir nos cœurs de son amour par le don de l'Eucharistie. Quand je viens recevoir le corps de Jésus, qu'est-ce que je fais ? Le pape François, avec le saint pape Jean-Paul II, nous dit dans cette même encyclique « À travers les chrétiens, l'amour se répandra dans le cœur des hommes pour que se construise le corps du Christ qui est l'Église et que s'édifie aussi une société de justice, de paix et de fraternité. » Ainsi, le pape François, à la suite de tous ses prédécesseurs, nous rappelle que nous sommes en responsabilité face à la société à la mesure de l'amour que nous aurons pour nos contemporains. Et donc, qu'allons-nous verser dans notre société ? Qu'allons-nous donner ? Et nous nous retrouvons avec cette pauvre veuve qui est dans le temple de Jérusalem. Il est donc important de considérer l'évangile d'aujourd'hui pour le vivre aujourd'hui. Et non pas seulement comme cette histoire du passé où les apôtres ont constaté ce qui se vivait au temple de Jérusalem qui n'existe plus et se dit ben nous, ce n'est pas notre problème. Au contraire, Jésus dit aujourd'hui, comment reçois-tu cette parole pour qu'elle nourrisse ton cœur et tes actions ? Alors en célébrant aujourd'hui le jubilé de la mort de Jean-Léon le Prévôt, nous pouvons peut-être nous tourner davantage vers lui, qui a ouvert son cœur à la grâce de Dieu après un chemin un peu compliqué. Mais il a ouvert son cœur d'une manière tout à fait particulière, puisque en constatant les dégâts de l'industrie moderne qui enlève l'homme de sa relation à Dieu, puisqu'il n'est plus, comme il le dit, en relation avec la création par son travail industriel, il se dit comment faire pour apporter cette folie de l'amour de Dieu que moi, Jean-Léon, j'ai redécouvert par l'amitié humaine. Il invente donc une communauté religieuse nouvelle qui unit en son sein laïcs et ecclésiastiques, non pour dominer le monde, mais pour dispenser par la simplicité et la pauvreté la richesse de l'amour divin. 1845. Et dans une petite lettre, enfin la petite, je vais dire très longue et très importante, dans cette lettre du 18 août 1848, vous avez un extrait sur la feuille paroissiale, et je vous en donne un autre extrait maintenant, il écrit « Sans nous décourager de nos mains ce résultat, tout labeur a son fruit et son mérite devant Dieu. Si nos œuvres ne sont pas comme les fleuves qui arrosent les provinces, elles seront comme le ruisseau qui baigne les prairies, fécond d'un champ et fait éclore quelques fleurs. Puissent ces fleurs de vertu et de dévouement s'épanouir parmi nous, c'est le charme de la terre et le parfum du ciel. Je croirais pour moi notre petite communauté utile et chère aux yeux du Seigneur si chacun de nous en sa voie faisait fleurir quelques vertus. » Humilité, simplicité, charité. Voilà Monsieur le Prévôt qui nous lègue notre capacité à chacun et chacune d'entre nous de faire un peu de bien afin que fleurisse l'amour de Dieu là où nous sommes. À l'école, au lycée, au travail, en famille, dans notre immeuble, Monsieur le Prévôt nous dit à nous, d'agir simplement comme ce petit ruisseau qui coule de manière imperceptible dans une prairie et qui permet à la prairie de vivre. Mais pour cela, il nous livre un petit peu son cœur, son chemin. Et nous pourrons le retrouver, alors je vous invite à le prendre, ou plutôt à recevoir ce que les servants de l'Assemblée vous donneront à la fin de la messe, un petit fascicule avec des prières de Monsieur le Prévôt. Le fascicule s'intitule « Jean-Léon le Prévôt prie, je prie, tu pries, il prie, elle prie, nous prions, vous priez ». Utilisez ces textes pour vous adresser au Seigneur. Et voilà ce que, je dirais, le sommet, hein, c'est un peu à la fin du livret, ce que dit Monsieur le Prévôt dans un sermon, puisque devenu prêtre en 1860, eh bien, il va annoncer cette bonne nouvelle par la prédication. Il dit « Mon Dieu, je vous sacrifie ma volonté si souvent rebelle, mon cœur si léger encore, si incliné vers les créatures. Je vous immole mes répugnances, mes désirs trop impérieux, l'amour de moi-même en un mot. Disposez de moi, mon Dieu, daignez me faire servir à votre gloire, daignez m'employer au salut des âmes que vous avez tant aimées et pour lesquelles vous avez donné votre sang. » Alors, voilà, laissons résonner en nous ce mouvement que M. le Prévôt a suscité à la suite de l'Évangile, de la première lecture, de la lettre aux Hébreux. Qu'avons-nous à verser dans le cœur de Jésus? Qu'avons-nous à recevoir du cœur de Jésus dans notre vie humaine? Que ce soit dans notre service au patron, à l'Église, que ce soit dans notre consécration, du mariage, de la vie religieuse. Jésus a besoin du don de notre vie pour nous sanctifier et vivifier le monde dans lequel nous sommes. Eh bien, demandons à la Vierge Marie, Notre-Dame de Nazareth, qui nous accompagne depuis l'origine de la congrégation, demandons-lui de veiller sur nous afin que nous soyons à notre place ces petits foyers d'amour où on peut puiser la bonté, la paix et la joie.